Et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Alors que la France est passée au vert hier, les indicateurs sont au rouge en Chine avec, comme un air de déjà-vu, des foyers épidémiques dans des marchés. Mais cette fois, c'est à Pékin que la situation est jugée extrêmement grave. Les autorités s'engagent dans une course contre la montre pour éviter une deuxième vague épidémique. Nous serons sur place dans un instant.
Après la crise en France, pas question de laisser la logique comptable et financière reprendre les rênes de l'hôpital. Une dizaine de syndicats et de collectifs appellent à manifester sur tout le territoire pour rappeler l'exécutif a ses promesses.
Et qui réglera la facture du coronavirus ? Personne, selon le gouvernement, qui refuse toute augmentation d'impôts. Mais des ONG et des économistes de renom plaident, eux, pour un système fiscal plus juste qui passe, selon eux, par des augmentations d'impôts.
À la une, encore, la question du passé colonialiste de la France remis en cause dans l'Hexagone, mais aussi en Côte d'Ivoire, vous l'entendrez.
Et puis, deuxième étape de notre voyage sur les routes européennes à l'heure de la réouverture des frontières en ordre dispersé. Nous partons aujourd'hui en Slovénie. Des peines de prison ferme 25 ans après les faits. Le jugement rendu hier dans l'affaire Karachi pose la question de la rapidité de la justice pour les dossiers politico-financiers. C'est le thème du billet politique de Frédéric Seyss, juste après ce journal. L'Organisation mondiale de la santé déclare suivre de très près la situation à Pékin où 27 nouvelles contaminations par la Covid-19 ont été recensées aujourd'hui après une centaine de cas déclarés depuis la semaine dernière. L'OMS pourrait même envoyer des experts en Chine. Les autorités sur place prennent les devants et un nouveau train de mesures pour enrayer l'épidémie. 11 marchés sont désormais fermés, dont celui de Xinfadi, l'équivalent de Rungis en France. Un regain épidémique qui fait craindre une deuxième vague, Dominique André.
106 patients sont hospitalisés dans le nord de Pékin, dans le grand centre hospitalier de Ditan. Les hôpitaux ont été mobilisés pour prêter main forte. Pour faire face à la flambée épidémique, le quartier du grand marché de Xinfadi, dans le sud de Pékin, a été déclaré zone à haut risque et une vingtaine de quartiers sont classés en zone à moyen risque. Les déplacements sont limités. Une cinquantaine d'écoles a fermé aujourd'hui. Les taxis ne peuvent plus sortir de la capitale. Ce matin, le ministère de la Santé a annoncé 4 cas de contamination dans la province du Hebei, autour de la capitale chinoise. Pékin s'est donné 3 jours pour reprendre le dessus, a expliqué Wu Zunyu, l'un des experts officiels.
Les 72 heures qui viennent seront décisives pour connaître la tendance de l'épidémie. Le premier cas a été détecté le 11 juin. La ville de Pékin a réagi dès le 12 en prenant des mesures. Les gens infectés présentent des symptômes dans les 24 ou 48 heures. Si le nombre de cas reste stable aujourd'hui et demain, cela signifiera que l'épidémie est sous contrôle.
Une trentaine de villes en Chine ont mis en place une quarantaine obligatoire pour les Pékinois venant des quartiers à risque.
Dominique André en Chine pour France Culture. Et dans l'espoir d'un vaccin, Emmanuel Macron doit annoncer aujourd'hui lors d'une visite sur un site du groupe pharmaceutique Sanofi près de Lyon une initiative pour financer la recherche, développement et la capacité de production de vaccins en France. Une visite qui intervient juste après l'accord conclu entre 4 pays européens dont la France et le groupe AstraZeneca pour garantir aux 27, 300 millions de doses d'un éventuel vaccin contre le coronavirus et ce, à prix coûtant, sans faire de profit. Que s'est-il passé avec les masques ? Aurait-on pu sauver des vies dans les EHPAD au plus fort de la crise ? Le confinement a-t-il été trop tardif ? La commission d'enquête qui s'ouvre aujourd'hui devant l'Assemblée nationale entend disséquer les défaillances dans la gestion de la crise du coronavirus. Eux étaient en première ligne justement face à la Covid-19, salués comme des héros en blouse blanche par Emmanuel Macron qui leur avait promis un plan d'envergure. Médecins, infirmiers et aides-soignants maintiennent la pression sur l'exécutif aujourd'hui avec plus de 220 rassemblements prévus de Paris à Montpellier en passant par Metz et Dunkerque à l'appel d'une dizaine de syndicats et de collectifs de soignants. Alors que le Ségur de la Santé entre dans sa 4e semaine, pour l'instant, les discussions présidées par Nicole Nota n'ont pas vraiment avancé, faute notamment de propositions chiffrées, au point que le syndicat Sud Santé Sociaux a même claqué la porte, comme le raconte son représentant Christophe Geffray.
Dans notre première rencontre avec Nicole Nota, en bilatéral, Nota nous répond « Moi, je ne suis pas une négociatrice, je suis juste l'animatrice du Ségur. Je n'ai pas d'argent à mettre sur la table. On repart d'une feuille blanche. Ce qui s'est passé avant n'existe plus. On fait un espèce de brainstorming national avec tout le monde et on garde les idées qui nous intéressent, qu'on transmet après au ministère et le ministère en fait ce qu'il veut. » Je vous le fais court, mais c'est ce qu'elle nous traduit. Et nous, on lui dit, non. Si vous êtes en cohérence avec le président de la République, ça veut dire qu'avant de continuer les discussions, vous acceptez le préalable et vous répondez à l'urgence et aux hospitaliers qui ont été exposés par rapport à leurs revendications depuis un an. On a proposé ce préalable, on n'a jamais eu de réponse. Donc, on a claqué la porte du Ségur parce que, de toute évidence, le Ségur ne sert, comme le grand débat après les Gilets jaunes, par exemple, qu'à une opération de com pour essayer de gagner du temps et de profiter de la crise Covid pour effectivement accélérer la casse de l'hôpital public.
Christophe Geffray, mandaté pour négocier le Ségur de la santé au nom de Sud Santé Sociaux, il répondait à Tarache Léguel. Et qui paiera la facture du coronavirus? Personne, selon Bercy, qui refuse toute augmentation d'impôts. Mais cette réponse est jugée non crédible par un collectif d'ONG et d'économistes, dont Joseph Stiglitz, qui redoute que les réponses des États à la crise ne renforcent les inégalités. Réunis au sein de l'ICRICT, une commission indépendante pour une réforme de la taxation internationale, ces experts plaident pour un système fiscal plus juste qui passe, selon eux, par des augmentations d'impôts. Marie Viennot.
Injuste, le système fiscal actuel l'est tellement que les entreprises du numérique qui ont gagné plus d'argent avec le confinement sont très peu taxées, insiste d'abord le collectif qui propose donc un nouvel impôt sur ces entreprises et plus largement sur toutes celles qui, grâce à leur position dominante, ont engrangé plus de profits grâce à la crise. Joseph Stiglitz.
There was a desperate need for money in the aftermath of the 2008 crisis. Well, this is 100 times worse.
Après la crise de 2008, l'argent manquait désespérément. Cette fois, c'est 100 fois pire. Le meilleur moyen de faire rentrer de l'argent, c'est de taxer ceux qui peuvent payer, sans augmenter les distorsions de concurrence. Pour éviter la compétition déloyale entre États, le collectif plaide pour un taux minimal mondial d'impôt sur les entreprises à 25%. C'est le taux prévu en France en 2022, mais à l'OCDE, en novembre, le ministre des Finances français avait plaidé, lui, pour une taxe minimale mondiale de 12,5%. Les idées du collectif sont donc très éloignées des discussions en cours, mais l'ICRICT veut croire que cette crise inédite peut changer la donne. Thomas Piketty, économiste. Il faudrait que quelques pays décident de mettre en place de vraies sanctions sur les pays qui ne coopèrent pas, ce qui, on l'espère, les pousserait à coopérer. Comme la crise de 2008 a poussé les États à coopérer sur l'évasion fiscale, les inégalités qui vont découler de cette crise-là devraient les inciter à mettre en place un impôt sur la fortune, juge enfin le collectif, qui reconnaît cependant que sans alternance aux élections américaines, ces propositions ont peu de chances d'avancer.
8h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Un buste du général de Gaulle a été vandalisé dans la commune d'Aumont, dans le Nord.
La tête recouverte de peinture fluo orange, le piédestal tagué au dos d'un mot esclavagiste également inscrit en orange. En Côte d'Ivoire également, haro sur le passé français, sur les traces du colonialisme, des anonymes ont débaptisé plusieurs rues ces derniers jours pour valoriser des héros africains. La correspondance à Abidjan d'Amandine Réau.
Sur une vidéo tournée de nuit, des jeunes hommes floutés et masqués taguent des panneaux dans les rues d'Abidjan. Le pont de Gaulle devient le pont Biaka Boda, un sénateur militant de la libération de la Côte d'Ivoire qui a été assassiné. Le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, l'une des plus grandes artères de la ville, est rebaptisé Thomas Sankara, du nom de l'ancien président panafricain du Burkina Faso, assassiné lui aussi. À Abidjan, des dizaines de rues portent le nom de colons ou de néo-colons, comme les appelle Kémi Séba. Fin mai, cet activiste panafricain franco-béninois a lancé un appel aux Africains depuis Cotonou. Il leur demande de décoloniser l'espace public et promet même une bourse de 10 000 euros à celui qui débaptisera le plus de rues d'ici au 5 août.
Lorsque l'oligarchie française, la République maçonnique française, a accolé les noms des colons dans nos pays, c'est des symboles qui sont installés pour avoir une influence sur la psychologie de la population africaine de manière générale, sachant que ces héros sont nos bourreaux.
Ces actions sont très commentées sur les réseaux sociaux, des internautes dénoncent l'incivisme, d'autres félicitent les auteurs pour ce geste symbolique et aimeraient que le mouvement se poursuive, d'autant que cette année, plusieurs pays d'Afrique fêtent le 60e anniversaire de leur indépendance.
Amandine Réau à Abidjan pour France Culture. Aux États-Unis, le président Donald Trump va tenter aujourd'hui de répondre à la colère du pays contre les violences policières avec un décret visant à encourager les bonnes pratiques au sein des unités locales des forces de l'ordre. C'est ce qu'indique la Maison Blanche ce matin. Et puis un peu plus de 3 semaines après la mort de George Floyd à Minneapolis, les manifestants continuent un peu partout dans le pays de manifester. La colère est attisée par la mort vendredi soir d'un autre Américain tué à Atlanta par un policier blanc. Richard Brooks avait 27 ans, il a été tué de 2 balles dans le dos alors qu'il tentait d'échapper à un contrôle. Quasi immédiatement, la chef de la police a présenté sa démission et la maire démocrate d'Atlanta, Keisha Lance Bottoms, prend les choses en main. Elle joue gros, car depuis quelques semaines, cette afro-américaine de 50 ans fait partie des colistières envisagées par le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden. S'il la choisit et s'il est élu, elle pourrait devenir la première vice-présidente des États-Unis, Grégory Phillips.
On avait remarqué Keisha Lance Bottoms 4 jours après la mort de George Floyd, avec ce discours extrêmement fort dans lequel elle s'adressait aux émeutiers. Vous déshonorez la mémoire de Martin Luther King. Rentrez chez vous. Si vous voulez que cela change aux États-Unis, allez voter en novembre. Maire d'Atlanta depuis 2 ans, Keisha Lance Bottoms n'a pas forcément l'envergure nationale d'une Kamala Harris, la sénatrice californienne, ou d'une Elizabeth Warren. Mais la fille du chanteur de soul music, Major Lance, a du charisme. Pendant la crise du Covid-19, elle a tenu tête au gouverneur républicain de Géorgie qui voulait déconfiner très tôt. Elle fut aussi l'une des premières à soutenir publiquement Joe Biden. Après la mort vendredi de Richard Brooks, Keisha Lance Bottoms est donc une nouvelle fois en première ligne. Le policier auteur des coups de feu a été immédiatement limogé et hier après-midi, en évoquant le meurtre de Brooks, elle annonce une réforme de la police d'Atlanta. Nous n'avons plus une seule journée, une seule heure, une seule minute à perdre. Joe Biden a juré qu'il prendrait une femme comme colistière et une afro-américaine qui dirige la ville natale de Martin Luther King serait un bon signal en ces temps de lutte contre les inégalités raciales.
Un reportage signé Grégory Phillips aux États-Unis pour France Culture. Françoise Vergès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, invitée des Matins de Guillaume Erner. Vous avez notamment écrit un féminisme décolonial édité par La Fabrique. Pensez-vous que prendre une femme noire, qui plus est, comme vice-présidente, pourrait aider le démocrate Joe Biden à l'emporter face à Trump ? Dans des États-Unis fracturés, on l'a bien compris avec les manifestations de ces dernières semaines sur la question raciale, un pays qui expose ses plaies au monde entier.
Oui, ça pourrait l'aider, d'autant plus que Joe Biden, on le sait, est quand même pas de parti démocrate le plus avancé, le plus progressiste comme candidat. Ça pourrait aider, mais on le sait aussi que ces manifestations, comme vous le rappeliez, vont beaucoup plus profondément que la mise en place de symboles. Donc ça serait vraiment formidable qu'une femme africaine-américaine devienne vice-présidente des États-Unis. Mais ce qui est demandé dans ces manifestations va beaucoup plus profondément que simplement de nouveau les symboles. Il y a même toute une critique que j'entends de la part de toute une jeune génération sur le fait que ça ne suffit plus d'avoir des élus simplement qui vont poursuivre la politique qui est en place. Et ce qui est demandé, c'est vraiment un changement profond, notamment ces demandes de démantèlement des polices, de defunding, c'est-à-dire que l'argent aille plutôt à des projets communautaires qu'à la police. Donc c'est tout, je pense, que ce qui est attendu, c'est ces profondes transformations. La pandémie, on le sait, et encore aujourd'hui, a révélé l'immense fracture raciale et sociale qui traverse la société. Et donc je pense que ce qui est attendu, c'est vraiment aussi vraiment qu'on s'attaque, que le gouvernement s'attaque à ces questions, que ce soit plus simplement des mesures, effectivement symboliques, très importantes, mais qui n'attaquent pas les structures.
Françoise Vergès, merci, vous êtes politologue et on vous retrouve à partir de 8h20, juste après ce journal et le billet politique de Frédéric Seyss. Retour en Europe avec la réouverture des frontières intérieures qui se fait en ordre dispersé. Si certains pays comme la Belgique, la Croatie, la France ou l'Italie ont ouvert leurs portes à tous les Européens, d'autres demeurent résolument fermées, comme le Danemark par exemple, et d'autres encore opèrent une sorte de tri sélectif des voyageurs en provenance de tel ou tel pays en fonction de leur situation épidémique, avec à chaque fois donc des règles différentes. La Slovénie par exemple, petit pays de montagne coincé entre l'Italie, l'Autriche et la Croatie, la Slovénie n'a rouvert ses frontières qu'à quelques Européens. Le reportage d'Éric Biegala à Bled, l'un des hauts lieux du tourisme slovène.
Bled, c'est le joyau des Alpes juliennes. Un lac avec son île et son église, le tout dominé par un château fort du XIe siècle. Une vraie carte postale, pittoresque et aussi un haut lieu du tourisme vert et sportif. Rafting, tyrolienne ou vol en montgolfière. Grega Trčak pilote ses balades au-dessus des montagnes.
En ce moment, ce sont les Slovènes qui sont là. Les étrangers ne sont pas encore revenus. Les frontières sont encore en partie fermées. Celle avec l'Autriche vient de rouvrir. Mais ça prend un peu de temps pour le tourisme. Ce n'est pas parce que vous ouvrez la frontière que vous avez des millions de gens qui arrivent.
Lentement, mais sûrement pourtant, les touristes commencent à revenir, confirme Thomas Schrogel, le directeur du tourisme de Bled.
Environ un demi-million de personnes passent par ici chaque année. Et le tourisme reprend déjà 200 visiteurs aujourd'hui, c'est assez fantastique.
Depuis le 15 juin, la Slovénie permet à d'autres ressortissants européens de séjourner dans le pays, mais pas à tous. Il y a des pays sur liste verte et d'autres sur liste noire, comme la France. Jelko Kacin, porte-parole du gouvernement slovène, en explique le principe.
Pour être sur la liste verte, il faut que vous ayez moins de 10 infections pour 100 000 habitants. Certains pays sont encore loin de pouvoir figurer sur cette liste. La Grande-Bretagne, la Suède, la Belgique, bien sûr.
Avec 15 contaminations pour 100 000 habitants, les Français restent indésirables en Slovénie. Ils sont juste autorisés à transiter par le pays.
Éric Biegala, que nous suivons toute cette semaine avec Gilles Gallinaro à la technique sur les routes européennes à l'heure de la réouverture des frontières en ordre dispersé. Le FN a-t-il escroqué l'État pour financer ses campagnes? Le tribunal correctionnel de Paris doit rendre ce matin son jugement dans l'affaire des kits de campagne des législatives de 2012. Le procès s'est tenu en novembre dernier. Marine Le Pen elle-même ne risque rien, mais son parti pourrait écoper pour la première fois d'une très lourde amende, Antoine Maret.
Dans cette affaire, l'État est la seule partie civil. Il réclame 11 600 000 euros de dommages et intérêts au FN et à ses co-prévenus. Pour l'avocat de l'État, le Front National, devenu Rassemblement National, a usé de manœuvres pour détourner les règles électorales et obtenir un remboursement indu des dépenses de campagne de ses candidats. Le parquet, de son côté, a requis notamment 500 000 euros d'amende contre le parti et 2 ans de prison ferme contre le personnage clé de cette affaire, Frédéric Chatillon. L'ancien président du GUD a fondé la société de communication Riwal en 1995. Son client quasi exclusif était le FN et ses émanations. Il fournissait notamment les kits de campagne aux 525 candidats aux législatives, des tracts, des affiches, des sites internet imposés par le parti d'extrême droite à ses candidats. Chaque kit était facturé 16 650 euros, des kits surfacturés selon les procureurs qui ont dénoncé un système destiné à tromper l'État, car l'État rembourse les dépenses des candidats dépassant 5% des voix.
Édouard Philippe confirme qu'il restera à Matignon, même s'il est élu au Havre. C'est ce qu'il confirme donc au quotidien Paris-Normandie. Si Emmanuel Macron pense, je cite, que je dois continuer ma mission à Matignon, j'assumerai mes responsabilités, a déclaré le Premier ministre. Des centaines de policiers se sont de nouveau rassemblés hier à Paris, notamment pour réclamer des actes forts aux autorités qui ont lâché du lest en annonçant le maintien pendant plusieurs mois de la technique controversée d'interpellation dite d'étranglement. Sa suppression avait été annoncée la semaine dernière par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur est-il le premier flic de France? C'est la question que posera Emmanuel Laurentin dans le temps du débat à partir de 18h20 ce soir sur France Culture. Quelques mots du temps de ce mardi 16 juin. Mossad sur la moitié ouest du pays, à peine plus clément à l'est. Les températures seront comprises au meilleur de la journée entre 17 et 26 degrés du nord au sud. Guillaume Hernet.
Merci Catherine Dutu. 8h17 sur France Culture.